On vous propose aujourd'hui une rencontre en nageoire en compagnie de David Grillon. David Grillon a toujours su qu'il serait musicien professionnel. Peut-être que le fait d'avoir des parents qui travaillent déjà un petit peu dans la musique, ça donne de l'idée. David Grillon monte un groupe dans son adolescence avec des copains. Ensuite, il part à Neuchâtel. C'est là qu'il fait la rencontre de nombreux musiciens et qu'il touche au métier de la prise de son. Et puis, il devient aussi guitariste, notamment depuis une dizaine d'années pour Manitou, le groupe qu'il crée en compagnie de Manalia. C'est donc David Grillon que l'on vous propose de rencontrer. Aujourd'hui, on est allé chez lui, dans son studio, dans son gris-gris sound. C'est comme ça que l'on le nomme. Aujourd'hui, l'invité de Par ici la musique est David Grillon.
Gris-gris, c'est un peu mon surnom pour les gens que je côtoie. Donc, pas tout le monde m'appelle Gris-gris, mais voilà. Puis je trouvais marrant le son du gris-gris, gris-gris magique. Je trouve marrant la connotation, quoi.
On a passé beaucoup de temps à écouter tout ce qui s'est fait dans la carrière, dans le parcours musical de David Grillon. Je propose de bien commencer l'émission avec un extrait de Manitou, avec un extrait du dernier album qui a ceci de particulier, c'est qu'on le trouve en CD traditionnel et puis il y a aussi une clé USB en bois. Cette clé USB en bois, c'est aussi un hommage à cette région jurassienne un peu, David.
Oui, donc on est tous originaires du Jura, dans Manitou, peut-être sauf la chanteuse, mais quand même maintenant qui est exilée au Jura, exilée pour son plus grand bien et par son propre choix, on précise. Donc, et puis c'est vrai qu'on adore un peu ce côté naturel du bois, donc moi j'adore la nature, et puis je trouve le bois c'est un produit qui est vraiment génial, donc qui vit bien, qui vit, qui transpire. J'adore ce produit, quoi.
Donc on écoute un extrait du dernier Manitou, puis après on va découvrir un petit peu tout ce qui a fait le parcours de David pour arriver à ce Manitou qui est sorti il y a un petit peu moins d'une année. Ça décoiffe, hein. Manitou, ça décoiffe quand même, hein.
On voit, on est tout décoiffé.
David, si on fait un grand saut en arrière, tu me disais avant qu'on commence l'enregistrement, finalement j'ai sifflé avant de parler et j'ai dansé avant de marcher.
Oui, bon, alors je vous rassure tout le monde, j'ai arrêté la danse pour le grand bien de tous. Mais effectivement, donc j'étais toujours depuis tout petit, donc moi je ne me rappelle pas, c'est mes parents qui m'ont raconté que depuis tout petit, je sifflais, dès qu'il y a de la musique, je dansais. Donc j'étais toujours vraiment attiré par la musique dès le plus jeune âge, quoi.
À quel moment tu as su que tu voulais faire de la musique, ça allait vraiment être une passion ?
C'est un peu comme une drogue, la musique. C'est-à-dire, une fois qu'on les réalise, c'est trop tard. Donc, j'ai pas vraiment un souvenir précis de moment où je me suis dit, je veux faire de la musique. Je sais, par contre, qu'à l'âge de 13-14 ans, j'avais souvent cette discussion, peut-être même un petit peu avant, déjà 12-13 ans. Et le problème qu'il y avait, c'est que j'entendais souvent, oui, mais on peut pas vivre de la musique en Suisse. J'entendais souvent cette phrase. Et donc, mon plus grand bonheur, c'est d'être têtu. Donc, ça m'a poussé vraiment à prouver le contraire, dans le sens qu'on peut faire vraiment de la musique en Suisse. Et maintenant, c'est pas dire monnaie courante, mais c'est quand même assez établi qu'on puisse faire de la musique en Suisse, quoi.
Les premières notes, c'était des notes de piano?
Et oui, la méthode Rose, pour les connaisseurs. Donc, c'est de la musique en trois temps, une espèce de petite valse, très bien, avec une professeure, une dame charmante, une vieille demoiselle, pour être plus précis, âgée. Mais malheureusement, à l'époque, j'étais plus intéressé par les Beatles, les Rolling Stones, ce genre de choses que la méthode Rose, quoi.
À 12-13 ans, c'est le premier groupe, c'est l'arrivée de... Non, pas tout à fait ?
Si, oui. tout à fait.
C'est Engeance ?
Engeance, ouais. Le magnifique Engeance. Donc, on a fait pas mal de bouts de chemin ensemble, donc depuis l'âge de 12-13 ans jusqu'à en tout cas 21 ans, donc environ 7-8 ans ensemble. Et puis après, donc on a même carrément déménagé tous ensemble à Neuchâtel pour poursuivre la musique. Et après, on a dû malheureusement arrêter. Chacun a pris un peu son chemin, qui travaillait dans la poste, l'informatique, la finance, etc. Donc, on a un peu pris chacun son chemin. Mais on s'est quand même retrouvés pour des anniversaires du groupe, etc. On a même fait un CD en 1999 pour les 20 ans du groupe. On est assez fiers de ce CD parce que c'était vraiment un peu un aboutissement, un petit peu vraiment marqué le coup.
Alors justement, on va écouter un extrait de ce CD d'Engeance. Ce que je remarque, c'est que c'est plus qu'un groupe de musique. Vraiment, les quatre gars qui décident de déménager et d'aller jusqu'à Neuchâtel pour continuer, ou les cinq gars qui vont jusqu'à Neuchâtel pour continuer d'évoluer dans la musique. Il y avait plus que la passion de la musique. C'était vraiment quelque chose de particulier dans l'adolescence et dans ce groupe.
Ouais, honnêtement, c'est des meilleurs souvenirs de mon adolescence ont été passés qu'Engeance. Donc, c'était vraiment une passion. On répétait tous les week-ends, plus si possible. Donc, on était vraiment beaucoup de temps ensemble, et pas seulement pour la musique, aussi faire la fête, s'amuser. Donc, les choses qu'on fait quand on est adolescent, on va dire.
Une goutte de sueur sur mon front caresse mes joues et mon âme. Le ventilateur qui s'acharne ne changera rien, rien de ce drame. Ce doute qui est plus encore l'expression blafarde de mon esprit grignote toutes mes denrées cérébrales. Tel un yo-yo à son fil. Tel un yo-yo à son fil.
Engeance avec David Grillon, puis les autres.
Alors Vincent Comte à la basse, Olivier Christ au chant, Olivier Guenot à la batterie et Frédéric Leté au saxophone.
un petit souvenir quand vous aviez 13-14 ans, un concert un petit peu particulier quand même, que vous aviez même enregistré sur une cassette qui doit se balader quelque part dans la rue Jurassique.
Nous l'avons détruite. Pour le plus grand bien de tous.
Toutes les preuves ont été détruites.
Toutes les preuves ont été détruites, donc pas de souci à se faire. Ouais.
Mais quand même un souvenir qui reste très présent.
Oui, alors on avait donné notre premier concert en 1979, et puis un groupe, on pourrait dire concurrent, deux membres de ce groupe étaient venus nous écouter, je ne vais pas les citer, ils se reconnaîtront. Et donc on a fait notre concert, on pensait qu'on avait super bien joué, tous nos amis étaient là, ils nous ont acclamés, c'était super, etc. Et puis deux jours après, on était écouté l'enregistrement du concert, et donc pendant tout le concert, ces deux personnes qui entre-temps sont devenues des très très bons amis, très proches, que je salue, on pourrait dire commenter le concert à chaud, et pas forcément toujours avec des commentaires agréables, donc ils sont vraiment moqués de nous parce qu'on jouait vraiment très mal, on a estropié des grands classiques de Deep Purple, des Rolling Stones, des CDC, des Sex Pistols, etc. Donc on était assez dépités en écoutant l'enregistrement, parce que non seulement on a découvert qu'on jouait vraiment très mal, plus encore avec les commentaires des deux autres personnes qui étaient des fois un petit peu acerbes, donc c'était un petit peu dur.
Ouais, mais en même temps, c'est là qu'on apprend, hein, c'est là que la musique rentre.
Mais en plus, ils avaient raison. Donc même si on était vexés le jour même, donc ils avaient complètement raison.
Donc toute l'équipe d'Engeance part à Neuchâtel, et Neuchâtel, finalement, c'est la possibilité pour David de faire de la musique et de commencer une carrière professionnelle dans la musique.
Oui, tout à fait. Donc, j'ai décidé d'arrêter mon métier de l'époque, mécanicien auto, pour me lancer dans la musique. Et en même temps, pour gagner ma vie, je me suis lancé dans le métier d'ingénieur du son.
C'était quand même un défi à 19-20 ans. C'était un défi un peu fou quand même.
Ben oui, oui. Donc, tout le monde me prédisait beaucoup de non-succès. C'est-à-dire, tout le monde était sûr que j'allais me planter, etc. Donc, c'est vrai que c'est un grand défi. Donc maintenant, j'ai l'impression que tout va bien, etc. Donc je donne cette impression, mais il y a quand même beaucoup d'années, ce qu'on appelle de vaches maigres, ou pas vaches folles, vaches maigres. Donc il y a eu vraiment pas mal d'années quand même difficiles où il faut vraiment travailler. Donc j'ai dû faire tout plein de petits boulots. Donc j'ai fait de la maçonnerie, de la menuiserie, poncer des bateaux au bord du lac avec une jolie bise à 2 degrés, les mains dans l'eau. Donc vraiment des choses pas forcément agréable, mais en même temps qui maintenant reste comme un très bon souvenir.
Ouais, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire quand on a envie d'être musicien ?
Exactement, c'est une passion. Comme je disais avant, c'est comme une drogue, quoi.
Mais alors Neuchâtel, c'est en même temps la possibilité de jouer avec de nombreux groupes, avec des gens qui sont là de passage, et puis finalement c'est la possibilité de toucher un petit peu à toute cette musique, d'autant plus qu'à Neuchâtel, il y a 25 ans, là aussi, il y avait une effervescence, il y avait plein de musiciens, ça bougeait pas mal.
Oui, ouais, tout à fait. Donc Neuchâtel est quand même une ville incroyable au niveau de nombre de musiciens. Pour dire que ce n'est pas une grande ville, c'est hallucinant, quoi. Donc il y a vraiment une scène très vivace. Alors maintenant, je ne connais plus beaucoup la scène neuchâteloise, mais quand même, je remarque toujours des jeunes groupes qui émergent de cette scène. C'est magnifique, quoi.
Aujourd'hui, un groupe avec des jeunes musiciens qui ont 12-13 ans, est-ce qu'à ton avis, est-ce qu'ils vivent la même chose que toi, tu as vécu avec Engeance ?
Alors, je ne peux pas me mettre dans leurs chaussures, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'à l'époque, on avait, on pourrait dire, la chance d'être très peu de groupes. Donc déjà, il y avait très peu de concerts, donc il y avait beaucoup de participation du public aux concerts. Donc par exemple, les concerts à la Halle du Château, pour ceux qui s'en souviennent. Donc souvent, c'était plein. Donc cette salle, elle était pleine, c'était vraiment génial. Et puis, donc, il y avait beaucoup plus d'opportunités. Par contre, ce qui était plus difficile, c'était d'avoir accès à la musique. Actuellement, avec un ordinateur, avec l'informatique, on peut apprendre la guitare, on peut, on pourrait dire, prendre un enseignement incroyable de grands maîtres de la guitare, d'autres instruments aussi. Donc on a vraiment plein de possibilités géniales maintenant. Donc on pourrait dire qu'il y a plus de possibilités maintenant, mais aussi il y a beaucoup plus de mouvements, il y a beaucoup plus de trafic, donc c'est quand même beaucoup plus difficile. Maintenant, je souhaite autant de fun qu'on a eu, et ça, je pense, c'est toujours possible, quoi.
Donc l'aventure neuchâteloise à 20, 22 ans, plusieurs groupes, notamment Totem, ça c'est quelque chose qui a marqué.
Ouais, alors vraiment Totem, c'était vraiment pour nous un grand pas en avant en musique. Donc là, j'étais avec des personnes principalement bien, Neuchâtel, il y a même aussi un jurassien, Igor Lièvre, de feu Panam Express Isocèle, pour ceux qui connaissent. Donc là, c'est vraiment du rock dans la lignée grunge, donc Nirvana, ce genre de musique, Pearl Jam. Et on a eu pas mal de succès avec le premier album. On avait même un titre qui est passé sur Couleur 3 et aussi sur DRS Dry, donc la radio suisse-allemande. On a eu beaucoup de concerts avec ce groupe.
Totem, avec David Grillon, qui est notre invité aujourd'hui dans Par ici la musique.
Sweet air that suits you, gazing at the sun, flower girl, you're so faint, and you seem to float. You need to throw your arms around the things you lose. Through you I see poison rain. Through you I see a secret pain. Don't obey me, don't you smile away.
On parle de l'aventure neuchâteloise avec David Grillon. L'aventure neuchâteloise, c'est aussi le début du travail dans le son.
Oui, tout à fait. Donc, j'ai commencé par Plateau Libre, qui était un lieu où il y avait des concerts 6 jours par semaine. Donc, un groupe arrivait le vendredi et jouait jusqu'au jeudi. Et il y avait un jour off. Je ne m'en rappelle plus dans les détails. Mais en gros, le groupe arrivait le vendredi, jouait vendredi, samedi, dimanche off. Donc pas de concert, lundi, mardi, mercredi, jeudi, concert.
Et là donc tous les soirs, t'es à la table de mixage?
Alors non, à l'époque c'était un peu petit budget, donc l'ingénieur du son était là le premier jour, le vendredi, pour installer, faire le son. Et puis certains groupes exigeants demandaient ce qu'on passe peut-être le lundi, une fois qu'il y a moins de public, pour faire des petits réglages, quoi.
On a un souvenir à RTN de Plateau Libre, c'est que le vendredi soir, il y avait toujours le concert retransmis en direct, mais là on est dans les années 84, 85, 86.
Ouais, tout à fait, ouais. Donc j'ai ce souvenir partagé. donc je salue Pierre-Yves Maspoli, s'il nous entend.
Et Georges Grillon.
Et Georges Grillon, bien entendu.
Qui était là le responsable de Plateau Libre et qui a beaucoup fait bouger aussi la musique en pays neuchâtelois à cette période.
Oui, tout à fait. Donc Georges Grillon, c'est vraiment un personnage que j'ai eu la chance de connaître par Plateau Libre. Et puis même encore maintenant, il organise au Ferreur le Buskers Festival. Donc c'est vraiment quelqu'un de très actif dans la scène culturelle neuchâteloise. Donc, et ce qui est marrant, donc il porte même donc moi, Grillon. Et encore plus marrant, donc Georges, le même prénom que mon papa, mon père. Donc c'est un petit peu sur cette base-là qu'on s'est rencontrés. Un petit peu de, on prenait entre guillemets, hasard, qui porte même donc mon père. C'est un peu comme ça aussi que j'ai pu rentrer à Plateau Libre pour apprendre ce métier d'ingénieur du son.
Would you not stand still? So much to lose. They try to get her back into her cage with golden bars as hard as steel. And no, you're not alone.
David Grillon, le son, pour toi aujourd'hui, qu'est-ce qu'il représente ?
Ça représente tout, le son. Donc, c'est vraiment. En même temps, c'est un support. C'est pas un moyen en soi. C'est un support. Pour moi, ce qui est important dans le son, c'est qu'il soit capable de reproduire une émotion. Plus que l'aspect technique de décibels, de volts, etc. Donc, l'aspect technique du son. Ce qui m'intéresse, c'est vraiment le côté musical du son.
Mais aujourd'hui, lorsqu'on a. Enregistrer ou travailler sur 100 ou 200 projets. Quel recul on a sur le son ? Comment est-ce que l'on écoute aujourd'hui un projet musical ?
Alors maintenant, j'ai une grande chance, c'est que je peux à nouveau écouter de la musique. Sous-entendu qu'au début que je travaillais dans le son, j'étais incapable d'avoir une écoute, on peut dire comme un auditeur. Donc je ne pouvais pas m'empêcher de détailler, d'aller, on pourrait dire, à l'intérieur du son, écouter par exemple la caisse claire ou le traitement qui était appliqué sur la basse ou sur la guitare. Donc une espèce d'écoute analytique. Donc heureusement pour moi, on pourrait dire que maintenant cette écoute analytique, c'est comme un muscle, elle est présente quand j'en ai besoin. Donc quand vraiment j'ai besoin d'entendre une particularité du son, je peux le faire. Mais j'ai aussi la possibilité maintenant, on pourrait dire, de prendre du recul et d'écouter vraiment qu'une oreille d'auditeur.
Le son, c'est notamment le studio Hotline à Saint-Blaise. Là, c'est 7 ans de travail. Beaucoup de travail, beaucoup d'enregistrements, beaucoup de rencontres.
Oui, alors ça, c'était vraiment une expérience magnifique. Donc, grâce à Salvatore Marzo, pour ceux qui le connaissent, qui est aussi un acteur très vigoureux de la scène châteloise, très connu en tout cas de la scène châteloise. Je lui dois beaucoup. Donc, il m'a vraiment donné ma chance de pouvoir travailler dans ce studio. Donc, il m'a donné en gros les clés. Il m'a dit « débrouille-toi ». Donc, je devais vraiment pouvoir organiser les sessions, etc. Donc c'était vraiment un terrain d'apprentissage incroyable et puis ça m'a permis de rencontrer plein de styles de musique, aussi d'ouvrir mes oreilles à plein de styles musicaux parce que je viens quand même plutôt du rock et puis au tout début peut-être que l'idée de faire du jazz, musique latino, de la chanson, tout ça me plaisait pas tellement mais en fait m'a vraiment ouvert plein d'horizons. Et maintenant, je suis très content d'avoir eu cet apprentissage.
Le premier enregistrement sur lequel tu travailles, c'est les Mad Lighters. C'est là, on te dit, ben voilà, vu que t'es là, vu qu'on t'a sous la main, c'est toi qui vas faire le mixage. Et c'était quand même un gros morceau, un bon pari, un bon défi.
Oui, alors honnêtement, là, j'ai vraiment eu la trouille de ma vie chaque matin en allant au studio. Parce que non seulement c'était un groupe très établi sur la scène châteloise, il y avait au sein du groupe Rico, donc tromboniste qui a joué entre autres Bob Marley, donc vraiment un Jamaïcain pur souche, etc. Donc je ne pouvais pas me permettre de massacrer, donc j'avais cette peur de ne pas restituer cette musique, donc j'étais vraiment anxieux, mais en même temps, avec du recul, je suis très content pour dire que c'était mon premier travail. Et moi, je suis très content avec ce recul.
Ça sonnait bien, t'avais l'oreille juste.
Oui, mais j'étais très bien entouré aussi. Donc, il y avait vraiment le producteur Antonello, Lubello, le bassiste, et puis producteur Bowman, je ne me rappelle plus son prénom, qui était très pointu aussi, qui savait exactement ce qu'il voulait. Enfin, les autres membres du groupe aussi, le chanteur, etc. Donc, on est toujours entouré. On n'est en général pas tout seul au début quand on fait du mix. On est bien entouré.
Dans les années 2000, David Grillon, après avoir passé quelques années à Neuchâtel, avoir joué avec, avec Totem, avec Girlfriend, avec tellement d'autres, après avoir sifflé avant même de savoir parler, c'est le retour dans la campagne jurassienne en 2002. C'est un petit peu un tournant, là, il y a 10 ans.
Oui, moi je crois qu'après 7 ans de studio, honnêtement, 7 ans d'éclairage au néon, d'être dans une cave, de voir le jour, souvent en sortant le matin du studio, c'est une vie très intéressante, palpitante. Mais après 7 ans, j'en avais un petit peu marre, donc j'ai décidé de me mettre à mon compte. Donc, et aussi de revenir au Jura pour être plus proche de la nature. Il y a de la nature à Neuchâtel, il faut me comprendre. Mais j'ai envie d'un petit peu de ce retour aux sources, d'être proche de mes racines, proche de la nature.
Aujourd'hui, habitant le Jura, connaissant quand même encore un peu la scène neuchâteloise et allant travailler parfois jusqu'à Lausanne, notamment pour donner des cours, tu as l'impression que l'on est tout de même dans un petit pays, parce que face au monde, l'arc jurassien et la Suisse romande, même musicalement, c'est une infime partie.
Oui, tout à fait. Mais en même temps, cette petite partie fait partie du grand tout et je suis très fier d'être là. Des fois, j'ai une amie qui disait, on habite une réserve d'Indiens. Donc moi, ça me va très bien parce que j'adore la culture indienne. Puis c'est vrai, il y a un peu ce côté, un peu à l'écart de tout. En même temps, on est très proche maintenant. On est tout près de Paris, plus proche que les Neuchâtelois et autres Genevois. Je veux dire, en très peu de temps, la Suisse est tellement petit, on est partout en peu de temps. Mais j'adore vraiment cette région, quoi.
2002, retour au Jura, et c'est le début, c'est le balbutiement de l'aventure Manitou.
Oui, tout à fait. Donc Manitou commence en 2002, au début, donc on a fait une petite maquette, après une deuxième petite maquette, on a été enregistré qu'un vrai batteur à la place de la boîte à rythme. Après, donc on a commencé à créer le groupe, donc on a rencontré Lionel. Lionel Eby à la basse. On a eu plusieurs changements de batteur parce que notre batteur du début, Vincent Villard, est parti vivre à Paris. Donc ça devenait un peu compliqué de jouer avec lui une fois qu'il habitait Paris. Donc on a, pour finir, engagé Diego Rapacchetti. Donc maintenant, c'est la formation finale. Donc je crois que Diego a rejoint le groupe en 2005, au début de l'enregistrement du deuxième album, enfin du premier album. On a d'abord fait un petit EP, 2003-2004, on a fait un premier single, 4 titres, un premier mini-CD, 4 titres. Et puis après, en 2005, on a fait le premier disque Clear and Simple, où Diego nous a rejoints.
La voix de Manalia dans Manitou, c'est l'un des éléments importants, c'est l'une des pièces maîtresses du Pulse.
Alors c'est sûr que quand tu changes un bassiste dans un groupe, c'est sûr, ça va changer le caractère. Tu changes un guitariste, ça va changer le caractère. Mais la voix, c'est vraiment un instrument unique. On a tous notre timbre de voix. Donc, ça, c'est vraiment pour moi le plus important. C'est quand même la voix, dans le cas de la musique chantée, on est d'accord. Hein. Donc, c'est vraiment un élément essentiel du son de Manitou et la voix de Manalia.
Manitou, aujourd'hui, pour toi, c'est le résultat de toutes ces années de travail, de toutes ces rencontres, de tous ces sons que finalement tu as gravés sur un disque dur, mais que tu as emmagasiné aussi dans ton cerveau de musicien.
Oui, alors moi je pense que j'ai collecté plein d'expériences différentes, et puis un peu comme des pièces de puds qu'on met par-ci, par-là, certaines sont utiles, d'autres moins, etc. Certaines ne paraissent pas utiles, d'autres beaucoup. Donc on amène tout ça dans un, on pourrait dire, chaudron final, quoi.
Drifting to the darkest stage, falling for the gloomy sky, hanging on to the familiar feeling of pain, 'cause nobody knows what I went through but me. No, no, nobody understands loss better than me. Giant vacuum of time. No, no, why am I looking there for what I can't find? No, no, why I keep looking there for what I can't find? I'm desynchronized. I need to be brought back tonight. knows what I went through, but me. No, no, nobody understands loss better than me.
Est-ce qu'il y a dans ton esprit un projet musical qui trotte depuis longtemps mais que tu n'as pas encore pu réaliser ?
Pour être honnête, il n'y en a pas qu'un, il y en a plein. Et c'est un petit peu des fois mon problème, c'est que j'ai beaucoup d'idées, mais après de réaliser, ça prend du temps, ça prend de l'investissement, etc. Donc il y a plein de projets qui fourmillent maintenant, donc j'espère pouvoir les réaliser petit à petit, je ne sais pas encore quand.
Merci David. On a fait un bon petit tour. Il y a encore un site internet qu'on va mettre en lien sur le blog. On va faire encore deux, trois petites photos, que les gens voient à quoi ressemble ce musicien ingénieur du son. Merci d'avoir partagé un petit peu cette passion avec nous.
Merci à toi.
Salut. Ciao.